franceinter.fr.
Bonsoir. Toujours plus de chômeurs en France, le ministre du Travail fait un aveu. Soyons honnêtes, dit François Rebsamen, nous sommes en échec. Le musée Picasso a rouvert ses portes ce matin à Paris avec 5 ans de travaux. L'occasion de rappeler que Picasso est mort espagnol car l'État français sous Vichy n'a pas voulu le naturaliser. Demain au Brésil, la classe moyenne va faire la différence dans les urnes et choisira ou non de clore les années Lula. Le choix, ce sera entre la présidente sortante, Dilma Rousseff, et le président, le candidat soutenu par la droite, Aïssio Neves. Nous irons au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain vient de battre les footballeurs de Bordeaux 3-0. Et nous rendrons hommage à une légende du rock anglais, Jack Bruce, chanteur et bassiste de Cream, aux côtés de Clapton. Bruce est mort à l'âge de 71 ans. Toujours l'automne pour le passage à l'heure d'hiver, une heure de sommeil en plus ce soir et toujours un ciel gris au réveil demain dimanche, nous dira Joël Collado.
France Inter.
Et puis on parle beaucoup de la barbarie des djihadistes qui veulent bâtir un califat en Irak et en Syrie. Mais il y a un autre aspect de la barbarie islamiste, c'est la barbarie d'État. Dans un pays islamiste, toute femme qui se dit victime d'un viol risque de devenir plus ou moins l'accusée. Par exemple, en Iran, le régime des mollahs montre tous les jours qu'il n'a que faire du président prétendument libéral Hassan Rouhani. Ce matin, à la prison Evin de Téhéran, une jeune femme de 26 ans a été pendue par la justice islamiste. Son crime ? Avoir tué un homme qui l'avait, dit-elle, agressé sexuellement. Cet homme était chirurgien et c'était aussi un ancien employé des services de renseignement. La condamnation à mort datait d'il y a 5 ans, quand la jeune femme avait 21 ans. Elle aura passé 5 ans dans le couloir de la mort, 5 ans à attendre en vain que la famille du chirurgien lui accorde son pardon, ce qui, selon la charia, aurait permis de commuer la condamnation à mort en prison à perpétuité. Moi, eh bien, c'est ce matin donc que cette jeune femme a été pendue. Mohamed Reza Djalili est professeur à l'Université des Hautes Études Internationales à Genève.
Monsieur Rouhani est président de la République, mais il n'a aucune capacité d'agir sur les décisions des instances judiciaires qui sont aux mains des extrémistes et des conservateurs qui font ce qu'ils ont toujours fait.
Et toujours dans une application très stricte de la charia et la condition des femmes reste très, très compliquée en Iran.
Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on a arrêté Mme Sotoudeh aussi, une grande juriste iranienne qui a fait 3 ans de prison. Et aujourd'hui, on l'a réarrêtée parce qu'elle a participé à une manifestation devant le Parlement contre le jet d'acide sur des femmes à Isfahan, il y a quelques jours. On reste toujours dans le même système. La substance n'est pas décidée par Rouhani, c'est le guide qui dirige toutes les affaires de l'Iran. On lui laisse une certaine marge de manœuvre pour discuter avec les Occidentaux. Le reste, ça lui échappe complètement.
Le professeur Djalili répondait à Yann Galik. En France, nous avons un ministre du Travail qui ne fait pas de la com et qui parle franchement aux Français. C'est la secrétaire d'État Laurence Rossignol qui complimente ainsi François Rebsamen. Petit compliment entre collègues du gouvernement Valls, me direz-vous. Mais il faut admettre que le ministre du Travail n'a pas biaisé ce matin dans le journal Le Parisien. Le chômage qui augmente encore en France en septembre, soyons honnêtes, a dit François Rebsamen, nous sommes en échec. Et il a été plus explicite dans la journée. Écoutez-le.
Je veux dire que depuis 2001, vous voyez, ça fait 13 ans maintenant, l'industrie n'a pas créé d'emploi net, que depuis 2008, le secteur de la construction détruit de l'emploi. C'est ça la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on fait un constat qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut, qu'on ne mobilise pas tous les outils de la politique de l'emploi pour lutter contre le chômage. Donc ma volonté, celle du gouvernement, ma détermination est totale. Et d'ailleurs, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions qui portent quand même leurs fruits, je voudrais le dire ici, notamment une baisse sur un an du chômage des jeunes de moins de 25 ans. Et puis, pour la première fois, le plus faible niveau de hausse pour les seniors. Donc, il y a des dispositifs, mais le CICE, l'OCDE vient de nous le dire, le pacte de responsabilité et de solidarité, eh bien, il va porter ses fruits, mais ça prend un peu de temps et je préfère dire la vérité. Je vous dis les choses sincèrement, j'ai bon espoir de renverser cela en 2015, mais je ne veux pas donner d'échéance mensuelle précise, mais l'année 2015 va voir une amélioration, j'espère bien sûr le plus vite possible, va voir une amélioration sur le front du chômage, oui.
Le ministre du Travail sur France Info avec Victor Maté. Parmi les 60 parlementaires en délicatesse avec le fisc, selon Le Canard, il y aurait, selon Mediapart, Gilles Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée. C'est ballot, il pourrait subir un redressement fiscal pour non-paiement de l'ISF. Le député du Val-de-Marne dit être de bonne foi. Il est quand même censé bien connaître la loi de finances, c'est lui qui l'a fait voter. Or, il a appliqué à sa maison du Perreux un abattement qui ne vaut pas pour une résidence détenue par une société civile, ce qui est le cas de la dite maison. Cette manip l'a sortie de l'ISF depuis 2011. Les contrôleurs du fisc devraient l'y faire rentrer. Dans le Tarn, tout juste un millier de personnes ont protesté ce matin en forêt de Sivens contre l'édification d'une retenue d'eau, une retenue qui doit permettre de réalimenter la rivière où puisent les agriculteurs. Messieurs Mélenchon et Beauvais ont été accueillis par des sifflets et des jets d'œufs et de yaourt. Corinne Cutilla était sur place.
On veut être le grain de sable de la machine à broyer la nature. Le message des anti-barrages est clair et ils ne lâcheront rien. Ils sont venus de Nantes, de Bordeaux, de Foix, mais aussi du Pas-de-Calais pour dire non à ce projet. Virginie habite à 5 km de la zone. Elle a fait du covoiturage toute la matinée. Elle était là hier et sera encore là demain.
On n'a pas été écoutés dans les dossiers, dans les demandes et on n'a toujours pas les réponses qu'il faut sur l'utilisation exacte de cet argent, combien exactement d'irrigants vont en bénéficier, qui va payer et tout ça fondé sur des études de 2001 qu'il faut réactualiser.
Jean-Luc Mélenchon et José Bové se sont rendus à Sivens cet après-midi. Pour le député européen José Bové, le message est simple. Les chiffres du projet sont fantaisistes et la vérité éclatera la semaine prochaine quand le rapport d'expertise commandé par Ségolène Royal sera publié.
Les premiers opposants ont dit qu'il y a moins de 20 exploitations qui vont être concernées. Et je pense que quand le rapport va être rendu lundi, on va se rendre compte que tout ça a été complètement surdimensionné en vue d'un modèle agricole qui était en vogue il y a 15 ans. Maintenant, ça va être la responsabilité politique. C'est-à-dire que l'expertise va très certainement dire que ce projet ne correspond pas du tout à la réalité de ce terrain.
Beaucoup de jeunes, donc d'enfants aussi dans ce rassemblement. Et puis des brebis, car les éleveurs profitaient de l'occasion pour dire non au puçage électronique de leurs bêtes. Toulouse, Corinne Cutilla, France Inter.
Devant la prison de Lannemezan en Haute-Pyrénées, 300 personnes ont manifesté ce matin en faveur du terroriste Georges Ibrahim Abdallah. Cet activiste libanais avait fondé en 1980 les fractions armées révolutionnaires qui ont revendiqué 5 attentats. C'est ainsi qu'ils avaient tué en France 2 diplomates, un Américain et un Israélien. Georges Ibrahim a été condamné à la prison à perpétuité aux Assises de Lyon en 1986. Le terroriste a quelques soutiens en France, dont Philippe Poutou, porte-parole du MPA. Il réclame sa libération et devant sa prison, ses soutiens ont lu ce matin une lettre de lui dénonçant, je cite, « l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes ». Après 5 ans de fermeture pour travaux, le public a retrouvé aujourd'hui le chemin de l'hôtel de Salé, dans le Marais, à Paris. C'est là qu'a ouvert ses portes le musée Picasso, avec pour premier visiteur ce matin le président de la République. Alors vous y étiez, Isabelle Pasquier, et c'est l'occasion de rappeler ce que la République doit à Picasso, un artiste espagnol que l'État français sous Vichy n'était pas pressé de naturaliser.
Et déjà à son arrivée en France en 1901, il faut savoir que Picasso passe pour un dangereux anarchiste. Il est fiché, surveillé par la police des étrangers et après, bien sûr, sous l'occupation. Sa demande a été sans suite, donc refusée. C'est ce qu'a rappelé ce matin François Hollande.
Un jour, il avait décidé de devenir français. L'administration traîne et refuse. Ainsi, Picasso n'est jamais devenu français.
Verdict de l'enquête des renseignements généraux, un verdict trouvé dans l'incroyable dossier Picasso. Je cite « Picasso est un anarchiste qui évolue vers le communisme. C'est un peintre soi-disant moderne qui a placé son argent à l'étranger. Il doit être considéré comme suspect. » Fin de citation. Cette terrible attitude de la France a laissé bien sûr des traces dans le cœur de Picasso et c'est ce que m'a confié ce matin Olivier Picasso, son petit-fils.
En 1940, c'était une autre époque. Pablo Picasso n'était pas encore l'homme extrêmement connu. En tout cas, son œuvre était déjà considérée dégénérée par l'occupant. On peut penser que les autorités avaient pu se mettre du côté de l'occupant et considérer qu'on n'avait pas envie d'avoir ce Picasso chez nous. J'ai connu ma grand-mère quand j'étais enfant. Ma mère possède des souvenirs. Personne n'en avait parlé. Je crois, comme toujours, dans les rapports de mon grand-père avec les gens, avec la politique, il n'en parlait qu'en tête à tête. Donc il avait gardé cette petite aigreur pour lui.
Résultat, jamais la France n'a accordé l'identité française au plus grand génie de la peinture du XXe siècle, un génie dont elle tire toute sa gloire.
Isabelle Pasquier.
Intersoir.
En Europe, on se souvient de Margaret Thatcher réclamant une ristourne sur le chèque britannique et martelant « I want my money back ». Hier à Bruxelles, David Cameron a joué un peu le même refrain pour les caméras britanniques. « I will not pay », »,« je ne paierai pas », a répété le Premier ministre britannique. Il s'agit d'un chèque de 2 milliards d'euros, résultat d'un ajustement technique du calcul du PIB de chaque pays européen. Si la contribution britannique au budget européen est en hausse, c'est grâce à la drogue et à la prostitution. La Commission a introduit ces paramètres dans les calculs de richesse et l'Angleterre est riche en ces matières. Comme David Cameron est sous la pression des eurosceptiques de L'UKIP est prisonnier de sa propre promesse d'un référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union en 2017, eh bien il est amené à en faire des tonnes et à découvrir des chiffres qu'il aurait dû connaître. À Londres, Estelle Cornado.
Où était David Cameron au cours des 5 derniers mois ? C'est la question que se posent plusieurs analystes de la presse londonienne, sachant qu'un rapport de l'Office britannique de la statistique publié au printemps dernier laissait déjà entrevoir une augmentation de la contribution de Londres. Le Financial Times explique qu'au terme d'un accord d'harmonisation du mode de calcul du revenu national britannique accepté par Londres, il était inévitable que la facture augmente. Et cela, le gouvernement de David Cameron n'aurait pas dû l'ignorer. Ce qui fait dire au Guardian que soit le Premier ministre dormait aux commandes, soit qu'il a volontairement provoqué la crise d'hier pour renforcer son image d'anti-européen. Car David Cameron est dans une posture politique difficile face au parti anti-européen UKIP. La formation de Nigel Farage menace le parti conservateur sur sa droite, avec une élection partielle remportée à ses dépens il y a une dizaine de jours et une autre en vue dans moins d'un mois dans le sud de l'Angleterre. Nigel Farage, favorable à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, compare l'organisation à un vampire qui se repaît du sang du contribuable britannique. Le Daily Express en conclut que la seule façon de ne plus être soumis aux décisions de Bruxelles est de quitter l'UE une bonne fois pour toutes. Estelle Cornado, Londres pour France Inter.
Au Brésil, demain, c'est la classe moyenne qui va décider de l'élection présidentielle. Les pauvres voteront pour l'héritière de Lula, la présidente Dilma Rousseff. Les possédants, qui veulent une économie plus libérale, voteront pour son opposant soutenu par la droite, Aécio Neves. Et au milieu, eh bien, la classe moyenne brésilienne fera la différence. Elle a bénéficié des années Lula, mais elle est révulsée par la corruption ambiante à laquelle la gauche au pouvoir depuis 12 ans a amplement participé. À Rio, Olivier Poujade.
L'éventail est très large, mais l'essentiel de cette classe moyenne est composé de familles bénéficiaires des programmes sociaux, allocations scolarité, soutien aux petits entrepreneurs, lancés depuis 2002 par la coalition de gauche. Ces aides, décisives, ont été mises en place dans un premier temps par Lula, puis renforcées depuis 4 ans par Dilma Rousseff. Une politique de redistribution qui assure à cette classe C un salaire moyen de 350 euros, qui lui offre la possibilité de se nourrir, de se loger, de s'éduquer aussi, et donc de découvrir les droits que peut revendiquer n'importe quel citoyen. Les observateurs économiques appellent ça ici le paradoxe de la classe moyenne, dont une partie difficile à mesurer estime que les efforts n'ont pas été suffisants, découvre l'amertume de payer des impôts et se met à regarder vers d'autres alternatives politiques, un autre choix qu'incarne aujourd'hui le candidat social-démocrate Aécio Neves. Rio, Olivier Poujade, France Inter.
Je vous rappelle que nous allons vivre la nuit la plus longue de l'année. Retardez vos pendules, on va gagner une heure de sommeil demain matin. En Russie, où il y a 11 fuseaux horaires, ça va être une vraie révolution, car la Russie va redevenir définitivement, ce soir, eh bien, un pays à l'heure d'hiver. Ça faisait 3 ans que la Russie s'était installée dans l'heure d'été. C'était la seule grande réforme dont on se souvient de Medvedev, mais redevenu président, Poutine a estimé que ce n'était pas concluant. Ce retour en arrière veut aussi bien sûr pour Sébastopol, par exemple, annexée militairement par la Russie. La Crimée est en effet désormais à l'heure de Moscou. 3-0 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain vient de battre Bordeaux pour la 11e journée du championnat de France. Franck Ballanger.
Le Paris Saint-Germain pointe à 4 longueurs de l'OM avant le déplacement des Marseillais à Lyon demain. Ce soir, les Parisiens ont assez facilement dominé Bordeaux. 3-0, deux buts de Lucas, le Brésilien, deux buts sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. Et au retour des vestiaires à la 50e minute de jeu, Lucas qui rejoint donc Zlatan Ibrahimovic en tête des buteurs du PSG avec 5 réalisations. Le 3-0 deuxième but a été inscrit par Ezequiel Lavezzi, l'Argentin, à la 81e minute. Gros souci quand même pour Laurent Blanc. L'entraîneur du Paris Saint-Germain sera privé de Thiago Motta, son maître à jouer, pour la réception de Marseille le 9 novembre prochain. L'ancien joueur de l'Inter Milan a reçu un carton jaune qui le privera du choc. Grégory Van Der Wiel sera également absent. Le Néerlandais, lui, a été expulsé pour un tacle par derrière sur Wabi Kazri dès la 28e minute de jeu. 3 buts à 0 pour le PSG, mais un carton rouge partout puisque André Poco a été exclu côté bordelais pour un tacle au niveau des genoux de Marco Verratti à la 37e minute. Après un succès au Stade de France contre Lens le week-end dernier et un autre à Nicosie mardi soir en Ligue des Champions, Paris enchaîne donc un troisième succès consécutif pour la première fois de la saison. Au Parc des Princes, Franck Ballanger, France Inter.
Pour son retour à la compétition, la skieuse Tessa Worley a terminé 7e du premier slalom géant de la Coupe du Monde. C'était ce matin à Sölden, en Autriche. Tessa Worley.
J'étais contente d'être au départ. Il y avait la pression, mais surtout, j'avais envie de profiter et surtout heureuse à l'arrivée. Vraiment très heureuse, très surprise, très heureuse et génial. Ouais, je suis soulagée, c'est génial. Je pensais vraiment pas arriver à skier à ce niveau-là, donc je suis contente. Je savoure cette première manche parce que voilà, ça fait quand même des mois que je l'attends et il y a quand même une grosse... un gros verrou qui se relâche là tranquillement, donc ça fait vraiment du bien. Et puis maintenant concentration pour la deuxième pour envoyer, et puis on verra ce que ça donne à la fin hein. Mais là que du bonheur aujourd'hui déjà, ma journée est réussie.
Bravo Tessa. Avec Richard Vivion, le géant a été remporté ex aequo par l'américaine Schifrin et l'autrichienne Fenninger. Qui veut gagner des millions? Eh bien, un Portugais a tiré le bon numéro. Ce joueur a remporté hier l'euro million, soit 190 millions d'euros. Un événement dans ce pays touché de plein fouet par la crise. Marilyn Darcy à Lisbonne.
Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas. C'est ce que doit se dire l'habitant de Castelo Branco, une ville moyenne du centre du Portugal, qui a gagné les 190 millions d'euros de l'euro million. Il est le seul à avoir trouvé la combinaison gagnante du jackpot. Il faut remonter à 2012 pour trouver un prix aussi important, gagné alors par un couple britannique. C'est la 53e fois que le premier lot est gagné par un Portugais depuis la création de ce jeu européen il y a 10 ans. Mais ce jackpot a provoqué l'émotion des Portugais alors que leur pays vit une crise sans précédent et qui ne semble pas avoir de fin. D'ailleurs, une loi votée en 2013 rappelle bien le contexte de l'austérité. Elle autorise l'État à ponctionner 20% des revenus des loteries à partir de 5000 euros. L'argent, c'est vrai, est en partie appliqué à des actions de solidarité sociale de plus en plus nécessaires, alors que dans le même temps, la crise et l'appauvrissement poussent encore plus les Portugais à dépenser dans les jeux de hasard, notamment dans l'achat frénétique des cartes de grattage. À Lisbonne, Marie-Hélène Darcy pour France Inter. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings.
Jack Bruce a été le pilier d'un groupe légendaire, Cream. À ses côtés, il y avait Eric Clapton et Ginger Baker. Ils étaient les héros du Swinging London. On est en 66, 67, 68. Cream a été ce que l'on a appelé le premier supergroupe. Bruce vient de mourir à 71 ans. Un supergroupe, c'est quoi? Vous preniez le dieu de la guitare, Clapton, le plus formidable batteur, Baker, et vous stabilisez le tout avec un chanteur et bassiste hors pair, Jack Bruce. Et vous avez la crème de la crème. Avec sa voix écorchée, Jack Bruce a donné sa tonalité sombre à Cream. Les rockers anglais étaient nourris au blues, mais on a atteint avec Cream le sommet du psychédélisme anglais. I can walk down the street, there's no one there, though the pavement's a one-use crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Voilà, Jack Bruce dans ses œuvres White Room et I Feel Free. C'est la fin de ce journal.
Merci à vous, Patrick Boyer. Tout de suite, les couleurs du temps. Joël Collado, Météo France.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de chaussettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie cachemire. En direct sur bleuforêt.fr.
Un ciel d'automne pour le passage à l'heure d'hiver. Demain, sur une grande partie de la France, le réveil sera gris, très brumeux. Sur les régions du Nord, la Normandie, l'Île-de-France, la Champagne et les Ardennes, jusqu'aux rives de la Loire. Cette grisaille, accompagnée près de la Manche d'un peu de bruine, doublée dans l'intérieur des terres de brouillard, aura dans la journée beaucoup de mal à se morcelé. Demain après-midi, le soleil ne percera pas partout, les éclaircies seront timides. Près de l'océan, sur le sud-ouest, le massif central, dans les vallées de Rhône-Alpes, dans les vallées de l'Est, les brouillards fréquents en fin de nuit évolueront plus facilement vers des éclaircies. Demain après-midi, à de rares exceptions près, le soleil réussira d'assez belles percées en montagne. Sur les Pyrénées, les Alpes, la matinée sera plus ensoleillée que l'après-midi. Puis autour de la Méditerranée, demain, sous un ciel pas toujours tout bleu, le temps restera tout de même très agréable. Et les températures demain, le plus souvent comprises au lever du jour entre 7 et 10 degrés, un peu moins élevées qu'aujourd'hui demain après-midi, sur les plages du Languedoc et du Roussillon, et encore voisines de 25 degrés au pied des Pyrénées. Ces températures qui atteindront 20 degrés à Bordeaux, 17 degrés à Lyon ou Rennes, afficheront à Paris autour de 16 degrés.